Bonjour à tous, c'est vraiment une joie pour moi de retrouver Saumur, notre église maman, notre église mère. Alors vous avez le salut fraternel de toute l'église de Loudun, avec joie. Donc voilà, on vous a pris David ce matin, on a fait un petit échange. L'église de Loudun va bien, elle vous remercie pour vos prières, votre accompagnement, votre soutien. Le Seigneur travaille nos cœurs, on est un petit peu plus nombreux, mais surtout on crée des liens toujours plus forts. La communion fraternelle prend vraiment un sens entre nous. On accompagne des sœurs africaines qui attendent d'avoir des papiers. Voilà, on est dans la joie de s'accueillir, de vivre ensemble. Et le Seigneur agit. On se réjouit aussi parce qu'on a un baptême le mois prochain. Voilà, donc amen, gloire à Dieu. Et puis on est vraiment convaincus qu'on a un rôle à jouer dans cette ville de Loudun. Par la prière, par l'intercession, pour la bénédiction de Dieu sur cette terre du Loudunais. Vous m'entendez bien ? Parfait. Alors je suis toujours étonnée et surprise et admirative de voir comment le Seigneur conduit les choses, parce que tout ce qui a été dit ce matin dans les prières, dans ce que Jean-Marie a apporté, préparait finalement le message. Ce matin, on va réfléchir autour du psaume 27. Est-ce que comme ça, quand je dis psaume 27, il y en a à qui ça parle tout de suite ? Oh oui, le psaume 27, je le connais. Ah, Juliette, ouais. Parce que très honnêtement, voilà, c'est pas forcément toujours le cas. Il y en a quand même beaucoup, des psaumes, 150. Et ce psaume, ce matin, ben justement, il va parler de la peur, des circonstances difficiles, du combat, mais aussi de la confiance en Dieu. On y passe tous, ça a été bien dit ce matin. Il y a des moments où c'est compliqué, et le Seigneur veut nous encourager. Et si ce psaume parle de ces sujets compliqués, c'est parce que Dieu nous connaît. Et il sait que, comme le dit le film, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et ce matin, vraiment, il veut dire à chacun de ceux qui passent par des moments compliqués, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, je t'ai vu et je t'ai entendu. Ce psaume 27, il a été écrit par David, le grand roi d'Israël. Donc peut-être, je me permets une petite présentation rapide de David, pour ceux qui ne connaîtraient pas bien toute sa vie. Avant qu'il y ait un roi en Israël, il y avait des juges, et puis le peuple a râlé, il a dit « Nous, on veut être comme tous les peuples autour de nous, on veut un roi. » Donc Dieu a désigné un roi qui était Saül. Mais ce dernier a désobéi à Dieu, et la royauté a été retirée de sa famille pour être donnée à David. Mais David a dû attendre 15 ans avant de devenir roi. Et pendant ce temps-là, il a servi Saül, qui est devenu jaloux de lui, qui a voulu le tuer. Donc il est passé par des moments compliqués, ce roi David, avant de devenir roi. Et même une fois reconnu roi sur tout le royaume d'Israël, il va se battre contre des ennemis, les Philistins notamment, et donc il va avoir des épisodes de guerre, de combat. Donc quand il parle de guerre et de combat, lui vraiment, il l'a vécu dans sa chair. Et puis dans sa propre famille, il va avoir des combats, puisque un de ses fils, Absalom, va vouloir prendre sa place. Donc là encore, du combat, il a dû fuir devant ce fils. Donc vraiment, ce psaume qu'il a écrit, on ne sait pas s'il l'a écrit au moment où il était pourchassé par Saül. Est-ce que c'est au moment où il combat les Philistins ? Est-ce que c'est au moment où son fils Absalom le poursuit et qu'il est obligé de se cacher ? En tout cas, c'est un moment compliqué dans sa vie. Et ce psaume ressemble au psaume 3 que je vous lirai tout à l'heure. Donc certains pensent que, parce que le psaume 3, il est bien précisé qu'il a été écrit au moment où il était combattu par Absalom. Là, pour le psaume 27, on n'a pas de précision. On suppose que c'est plutôt dans cette période-là de sa vie. Je vais le lire en entier. Si vous avez des Bibles, c'est le moment de les sortir. Pour ceux qui n'en ont pas, pas de panique, ça va être à l'écran. Et puis on va prendre 4 temps. Voilà, je vais le découper en 4 parties, ce psaume 27. Mais d'abord, pour que vous en ayez une idée complète, on va le lire en entier, tranquillement. Donc, psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Là, je suis sûre qu'il y en a plein qui disent « Ah, mais oui, je le connais !» L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai. je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi, je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur, tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. N'est-ce pas qu'il était approprié pour aujourd'hui ce psaume ? Merci Seigneur. Alors, magnifique psaume avec différents moments. On va commencer par les trois premiers versets. Je les relis ou vous les avez suffisamment en tête ? Oh, je les relis, c'est tellement bon. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Et là, j'ai juste envie de dire, waouh ! Il y va fort, David. Alors, on reprend tranquillement le premier verset. Est-ce que vous êtes d'accord avec David pour dire que Dieu est notre lumière ? Amen. Celui qui éclaire nos ténèbres, n'est-ce pas ? Nos vies. Il vient montrer le chemin, la voie à suivre. C'est lui qui nous guide. Et ça me fait penser à cet autre psaume, le psaume 36 au verset 10, qui nous dit « C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. » Dieu est notre salut également, celui qui sauve nos âmes et il nous conduit dans la vie éternelle. Alors, parce qu'il est lumière et salut, pourquoi avoir peur ? Et regardez précisément, ce n'est pas pourquoi avoir peur généralement, c'est plus exactement de qui avoir peur ? Personne. Et ça vous fait certainement penser à ce verset dans Romains, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Et puis ensuite, il est présenté comme le soutien de nos vies, comme il est cette lumière, ce salut, et qu'il est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter ? Le soutien, un soutien, c'est là quand les forces manquent. Quand on part en arrière, hein, on a ce mouvement de se dire « je pars en arrière, mais ah, il y a quelqu'un pour me retenir, mais c'est le Seigneur ». Et ça me fait penser, on voit souvent dans nos villes, dans nos villages, des vieilles maisons qui tombent en ruine et puis qui sont maintenues par des étais. Hein, il y a des pièces en bois ou des pièces en fer, qui les retiennent pour pas que les murs ne s'encèlent. Ben, le Seigneur est là. Quand ça ne va pas, quand vous sentez que les forces vous viennent à manquer, il y a quelqu'un qui vous retient, c'est lui. Et j'aime à penser au Seigneur dans cette image-là. Voilà une belle déclaration de foi, en tout cas, de David. Et je vous invite à la dire quand ça ne va pas. Vous savez qu'on est invité à déclarer la parole, à la dire à voix haute. Alors, si vous ne saviez pas ou si vous avez un doute, je vais vous donner des arguments. Dans Proverbes 18, au verset 21, on nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Si vous dites que des choses catastrophiques, vous allez probablement passer une mauvaise journée. Et puis, le Seigneur lui-même, quand il parle à ses disciples, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode où il maudit un figuier. Et puis, ils s'en vont, ils repassent, le figuier est tout desséché. Et puis, Pierre lui dit, oh, regarde Seigneur, le figuier que tu as maudit, il est tout sec. Et Jésus leur dit, mais ne doutez pas. Et il leur parle, il leur dit, si tu dis à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle le fera. Mais si tu dis à cette montagne, c'est bien que tu lui parles à la montagne. Donc tu parles à voix haute. Deuxième argument pour parler à voix haute. Et puis, Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vraiment, je vous encourage à dire, par exemple, les trois premiers versets de ce psaume, quand ça ne va pas, pour réaffirmer votre confiance, votre foi en Dieu. Et ce qui me fait sourire, c'est que j'ai entendu cette semaine, sur Instagram, je confesse, Christophe André, qui est un psychologue connu, qui parle, lui, des paroles performatives, à savoir que ce qu'on dit a une influence sur ce qu'on vit. Et il invitait ses auditeurs à ne pas dire « je suis nul, je réussis jamais, je suis incapable », parce que ça créerait cette incapacité, cette nullité. En fait, ça me fait bien sourire de voir que la psychologie confirme ce que la Bible dit depuis bien longtemps. Gloire à Dieu. Donc, n'hésitez pas à proclamer des versets comme cela. Je continue. Verset 2, alors là, attention, quand des méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Là, on change de vocabulaire. Voilà David qui nous, et puis nous, hein, qui se retrouve face à des ennemis, des personnes opposées à lui. Les mots sont forts. On parle de méchants, de persécuteurs, d'ennemis qui veulent faire de lui une proie. On est vraiment dans le combat, dans le conflit, dans la chasse, hein, parce que les proies, c'est dans la chasse. Mais, et quel beau mais, David sait que finalement, c'est eux qui vont tomber, ils vont rater leur coup, ils vont trébucher et ils vont tomber. Et plus encore, et là, rappelez-vous sa vie, nous, on n'a peut-être pas eu l'occasion de se retrouver en face d'une armée, mais lui, il imagine la situation. Si une armée prend position contre moi, alors on peut vraiment se projeter, je ne sais pas si votre armée, elle est romaine ou moyenâgeuse, là, dans votre tête, mais une armée qui prend place en face de nous, waouh, c'est plus qu'impressionnant. Eh bien non, lui, il continue à dire, si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Et là, on se dit, mais David, comment fais-tu ? Quelle est la clé ? Quel est ce secret de cette confiance ? Eh bien, on va le voir dans la suite. Les versets 4 à 6. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher. Là, on change de lieu. On change de sujet, on change de plan. Mais ce n'est pas un hasard du tout, c'est la clé de ce qui précède. Voilà ce qui est important dans nos circonstances. Demeurer auprès de Dieu. Alors c'est vrai que David, il devait aller au temple de Jérusalem parce que Dieu y était. Nous, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'aller dans un endroit précis, pas à Jérusalem, ni même dans une église en particulier. On a le Saint-Esprit et le Seigneur en nous tout le temps. Mais ces versets nous parlent quand même, parce que c'est dans le lieu secret, c'est là qu'on le retrouve le Seigneur, nous, dans le lieu secret, c'est là qu'on va avoir ce temps de communion particulier. Je vous rappelle Matthieu 6, 6, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Pourquoi David demande cela ? Parce que c'est vraiment la clé de sa paix et de sa confiance. Et il y a un petit mot important, c'est le « car ». Le « car », il est juste à côté du verset 5. « Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. » Il sait que c'est auprès du Seigneur qu'il va se passer quelque chose. Et quand il mentionne le mot « tabernacle », le mot « tente », c'est vraiment le lieu où est la présence du Seigneur. Et donc pour nous, c'est dans l'adoration que ça va se passer. Alors vous me direz, c'est pas toujours facile d'adorer quand on est stressé, quand on vit des moments difficiles, c'est pourtant important. Parce que quand on adore, on arrête de regarder notre problème, on se concentre sur le Seigneur, on lève les yeux et ça nous donne l'occasion de prendre du recul. Et c'est ce que dit David. « Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. » S'élever, c'est prendre de la hauteur. On va voir encore avec le verset 6 après. Il sait qu'il est en sécurité auprès du Seigneur. David voit ce qui se passe. Et il nous dit au verset 6, « Déjà ma tête se dresse au-dessus des ennemis qui m'entourent. » C'est pas rien d'être au-dessus de la mêlée. Quand on est englué dans un problème, à aller auprès du Seigneur, ça nous permet de prendre de la distance et de prendre de la hauteur, la capacité à prendre du recul. Merci Seigneur. Et du coup, ça le conduit à louer, à chanter, à célébrer. « J'offrirai des sacrifices dans sa tente avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. » C'est un cercle vertueux. Quand les circonstances sont contre moi, alors je vais dans la présence de Dieu, je me concentre sur lui, je me rappelle toutes ses promesses, je compte sur lui, et alors il se passe quelque chose. Mes circonstances ne vont pas changer par magie, Dieu n'est pas un magicien, c'est pas magique. Hein. Je suis toujours avec mes problèmes, mais par contre, j'ai dans mon cœur mes émotions qui se calment, la paix qui vient, la joie, la tranquillité d'esprit et la confiance que je ne suis pas tout seul. C'est ça la différence. Les circonstances restent compliquées et David l'a vraiment expérimenté, mais on peut penser à Jésus dans la tempête, quand il est dans la barque et qu'il dort, c'est ça ce qu'il expérimentait, il était en sécurité. Si ça se passe bien, c'est parce qu'il y a vraiment cette relation entre Dieu et nous, cette paix. C'est vrai que cette paix, on parle souvent la paix dans la tempête, etc., mais on ne peut pas la fabriquer. Je ne peux pas m'asseoir là pendant des heures en disant « maintenant je vais être en paix ». Puis j'attends, puis je termine, oh, je me concentre. Non, ça ne marche pas. C'est vraiment dans le cœur à cœur avec Dieu que là, si j'ouvre ma porte, lui, il va pouvoir rentrer et m'apaiser. Mais, et c'est là qu'on arrive au cœur de ce psaume, verset 7, « Éternel, écoute ma voix, car je fais appel à toi, aie pitié de moi et exauce-moi. » Là, on change de ton. On se dit, attends, on avait un David sûr de lui, confiant, qui expérimente la présence de Dieu, il va dans le tabernacle, et là, on va regarder d'un peu plus près, mais qu'est-ce qui se passe? Verset 8, « Mon cœur dit de ta part, recherchez-moi, je te recherche, Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Oh là, oh là, oh là! Mais qu'est-ce qui se passe, David? Ça ne va plus? Il y a des soucis? Ben non, je continue. « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires. Car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. » Oh, on se dirait que David doute, vous êtes d'accord avec moi? On dirait qu'il est agité. Où elle est sa belle confiance et sa tranquillité? Ben en fait, elle est là parce que on voit que David, l'homme selon le cœur de Dieu, comme nous dit la parole, ben même David pouvait avoir des moments de doute et des moments de perte de tranquillité. Et si c'est dans la parole, c'est pour nous encourager à faire comme lui et aller dire au Seigneur ce qui ne va pas, à ouvrir nos cœurs. Quand il dit « Aie pitié de moi », on se dit, mais peut-être qu'il a quelque chose, pas, un événement supplémentaire dans ce qu'il vit qui vient assombrir sa foi. Écoute ma voix, je fais appel à toi, mais c'est peut-être parce qu'il ne voit pas d'exaucement arriver. Est-ce que ses ennemis sont plus insistants? On n'a pas de détails sur les circonstances. Mais nous, on sait que s'il a dit ça, c'est parce qu'il veut nous encourager à ce qu'on puisse aussi ouvrir nos cœurs au Seigneur. Ce matin, si l'un de nous passe par des moments compliqués et se débat, la crainte du lendemain, la peur, ne te condamne pas. Ce que tu vis là, peut-être tu n'oses pas dire à Dieu, c'est long Seigneur, c'est long, j'en peux plus, j'ai du mal, je doute, pourquoi tu n'interviens pas, pourquoi il ne se passe rien, pourquoi apparemment il n'y a rien qui change, mais fais-le, ouvre ton cœur. Certains d'entre vous connaissaient ma maman, elle est auprès du Seigneur maintenant, et c'est ça qui l'a mis en route pour devenir chrétienne. C'est quand elle a compris qu'on avait un Dieu auprès duquel on pouvait ouvrir nos cœurs complètement. Qu'il n'était pas assis sur son grand nuage noir, là, ou gris, en train de mettre des points, et qu'on pouvait ouvrir nos cœurs et lui dire « Seigneur, c'est dur, Seigneur, j'ai peur, Seigneur, j'y arrive pas, Seigneur, pourquoi tu réponds pas ?» Il va jusqu'à penser, David, vous imaginez comment il se sent seul, à se comparer à être abandonné par ses parents. « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Verset 10. C'est fort quand même comme image. Je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens qui ont perdu leurs parents jeunes ou un parent ou les deux, mais c'est quand même une image difficile de se sentir abandonné. Pourtant, au cœur de son tourment, David y redit et il se redit sa confiance en ce Dieu qui le recueille. Donc il a ouvert son cœur, mais il sait au fond de lui, on sent qu'il y a cette confiance parce qu'il a déjà expérimenté plein de choses avec le Seigneur qui lui permet de dire, même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel m'accueillera. Alors nous aussi, comme David, on peut redire cette confiance totale en Dieu qui ne me lâche pas. Seigneur, je peux t'ouvrir mon cœur, mais je sais qu'au fond de moi, là, tu es là et tu ne me lâches pas. Même si apparemment, il n'y a rien qui change dans mon cœur, j'ai déjà expérimenté. Se rappeler ce qu'on a déjà vécu. Notez ce que vous avez déjà vécu. Tenez des carnets de prières, des exaucements. Et allez les lire dans les moments où ça flanche, où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Rappelle-toi, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 1 an, il y a 6 mois, tu as prié pour ça, voilà comment le Seigneur a répondu. Que retenir de ce passage? C'est que Dieu veut vraiment qu'on ait une relation avec lui, un cœur à cœur, comme avec un ami. Vos amis, vous leur dites des choses qui sont différentes de ce que vous dites à un copain, à une connaissance. Un copain, une connaissance, on va parler de choses assez banales. Voilà. Mais un ami, vous pouvez vraiment lui dire toutes vos joies, vos réussites, c'est assez facile d'en parler, mais aussi vos doutes, vos peurs, vos combats. Mais le Seigneur veut la même chose. À un ami, on fait des compliments sincères, on dit aussi quand ça ne va pas. Et le Seigneur, il fait la même chose avec nous. Dieu ne veut pas des gens qui viennent avec une image de ce qu'il devrait être pour lui plaire. Je ne sais pas si vous me suivez. Souvent, on s'imagine que Dieu attend de nous qu'on fasse ceci ou cela, qu'on se comporte comme ci ou comme ça. Mais ce n'est pas ce qu'il veut. Quand vous allez voir un ami, vous ne vous dites pas « Ah ben tiens, je vais voir un tel, alors je vais parler comme ça, je vais m'habiller comme ci, puis pour lui faire plaisir. » Ce n'est pas une relation d'amitié, ça. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil. Il veut qu'on puisse venir et ouvrir notre cœur, lui dire tout ce qui ne va pas. Je sais que peut-être j'en choque ce matin, certains qui pensent qu'on n'est pas amené à dire autant de choses aussi précises au Seigneur, mais pourtant, si. Et oui, je parlais de Dieu sur son nuage. Vraiment, ce matin, repartez avec l'idée que le Seigneur n'est pas en train de vous... On ne passe pas un examen permanent avec Dieu. Oui, on passe par des épreuves. Mais il n'est pas assis sur son trône avec un bulletin de notes en disant « Bon alors, Jean-Marie, dans oui, il a bien prié, ok, ça c'est fait. Gilles, Gilles, un petit flébissement, bénéfice du doute. On va lui remettre une petite épreuve pour voir comment il se comporte. Non, pas du tout. Il n'est pas là. Trop de chrétiens pensent que Dieu nous fait passer tout le temps des examens pour voir et des épreuves pour voir qui on est et puis voir si on mérite la bénédiction. Mais non, c'est pas un Dieu qui aime son peuple, ça. Ça colle pas. Par contre, que Dieu se serve des épreuves par lesquelles on passe pour nous faire grandir, pour se révéler à nous, alors ça, oui. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que parfois, vous allez être honnête avec moi, on se retrouve dans la mouise parce que c'est nous qui avons fait des mauvais choix. Mais Dieu peut se servir de ces épreuves-là pour les bénir, et nous bénir, et les transformer. Il transforme le mal en bien. Et ça, je trouve ça très fort. Donc des fois, je suis là, Seigneur, pardon, c'est moi qui ai... On voudrait, oh, Seigneur, transforme ma situation, oui, mais c'est toi qui t'es mis dedans, oui. Ben, allez, tu vas apprendre une leçon, puis tu vas avancer. Parfois, c'est des épreuves que l'ennemi nous envoie, Satan n'aime pas qu'on grandisse auprès du Seigneur, donc allez, si je peux te retarder un petit peu, je le fais. Mais là encore, Dieu intervient et transforme le mal en bien. Et puis, il y a d'autres moments où le Seigneur se dit, ok, tu peux passer au prochain niveau. Donc là, il faut passer par une petite épreuve. On va voir. Et puis, tant qu'on n'y est pas passé, ben, on va y retourner. Hein, vous le connaissez, le Seigneur. Mais c'est pour notre bien. Alors, je veux vraiment vous inviter à repenser à David, à vous inspirer de la vie de cet homme-là et à la relation qu'il avait avec Dieu. On s'éloigne de ce psaume 27. Il y a d'autres psaumes qu'on appelle des psaumes de lamentation dans lesquels il ouvre son cœur. Alors, je ne les ai pas mis à l'écran, mais je vais vous donner quelques exemples. Dans le psaume 6, ceux qui ont leur Bible peuvent tourner. On va lire quelques versets, les versets 3 à 6. Écoutez comme il livre son cœur. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os. » Il faut y aller quand même. « Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi ? Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. » Donc, il sait qu'il y a cette bonté. « Car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ?» Il a une liberté d'expression que je trouve merveilleuse. Versets 7 et 8. « Je m'épuise à force de gémir. » Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? « Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. » Il est inondé de mes pleurs, mes yeux sont usés par le chagrin. Waouh ! Quelle honnêteté ! Si c'est dans nos Bibles, ça, c'est pas par hasard. C'est parce que Dieu est honnête avec nous. Il nous promet pas une vie de bisounours dans les pétales de rose. On va passer par des moments difficiles. David est passé par des moments difficiles. Donc, n'ayons pas peur, ne nous sentons pas abandonnés. Si c'est là, c'est pour nous encourager en nous disant, tu vois, David est passé par là, mais il s'en est sorti parce que Dieu est bon. Psaume 13. Là aussi, on va lire les 6 premiers versets. « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Ouais, c'est vrai que des fois, on se sent oublié du Seigneur. Faut le dire. Moi, j'ai pas une vie parfaite. Ah oui, mais comment toi, tu te sens oublié, mais moi jamais. Non, ça arrive. Et David l'a vécu aussi. « Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage ? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi ?» C'est des choses qu'on vit, c'est dans la Bible, c'est fait, voilà. « Regarde et réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Il y va fort. J'avance au verset 6 parce que, quand même, il dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel car il m'a fait du bien. » Donc toujours, il y a ce côté « je vis des choses compliquées, mais je le connais. Je sais en qui j'ai cru. » Alors, de l'honnêteté, un bel exemple pour nous. David redit sa confiance, il se rappelle de tout ce qu'il a vécu déjà avec le Seigneur. De manière plus générale, je voudrais vous inviter à réfléchir à la vie de David. Vraiment, si vous voulez la lire, si vous ne savez pas quoi lire en ce moment dans votre Bible, vous pouvez lire 1 Samuel et 2 Samuel dans l'Ancien Testament, qui rappelle la vie de David. Et vous allez voir qu'il a eu une relation de proximité avec Dieu qui est enviable. Quand il combat, combien de fois il demande au Seigneur « Est-ce que je dois sortir ? Est-ce qu'on doit y aller ?» Et Dieu lui dit oui ou non, ou pas comme ça, ou passe par tel endroit. Quand tu entendras ceci, c'est le signal que tu devras sortir avec tes soldats. Mais est-ce qu'on ne veut pas ça, nous ? Moi, je veux pouvoir parler au Seigneur. Et il le fait, lui dire « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans telle situation ? J'ai telle chose qui arrive devant dans ma vie, qu'est-ce que je fais ?» Et Dieu le fait. Je vous donne d'autres exemples de la vie de David. Vous savez qu'il voulait construire un temple pour le Seigneur. Et puis Dieu va lui dire, donc il remet sa demande devant Dieu, et Dieu à ce moment-là va utiliser le prophète Nathan pour lui dire non. David, j'ai vu ta demande, j'ai vu ton cœur, mais toi, tu as trop de sang sur les mains, tu ne peux pas construire ce temple, c'est ton fils Salomon qui va le construire. Mais il parle au Seigneur, il lui donne son projet, et Dieu lui répond. Vous lirez ça en 2 Samuel 7, 4 à 17. Dans 1 Chronique 28, il va même donner les plans, ah oui, ça c'est excellent, les plans du futur temple, il les donne à Salomon, et il lui dit, à Salomon, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a fait comprendre tout cela, tous les travaux de ce plan. Donc en gros, le plan du temple, c'est un téléchargement que Dieu a donné à David. Waouh ! Mais Seigneur, c'est comme ça qu'on devait... Ça, c'est la vie normale du chrétien ? Un autre exemple. Il est avec toute sa troupe armée, il n'est pas encore roi. Il a quitté son campement, il est parti avec son armée. Et les Amalécites, une autre peuplade ennemie d'Israël, pillent le camp, enlèvent les enfants et les femmes. Ils reviennent, consternation. Et là, toute sa troupe armée est tellement en colère contre David qu'ils envisagent de le tuer. Donc c'est vraiment très fort. Et là, vous lirez ça en 1 Samuel 30, au verset 6, on nous dit « David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel ». Ça, c'est un conseil pour nous. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça ne s'arrête pas là. Il va consulter l'Éternel pour savoir quoi faire. Et l'Éternel lui dit « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras ». C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre toute la troupe et ils vont récupérer les femmes, les enfants et tout ce qui a été pillé. Waouh ! Et puis un dernier exemple. En 2 Samuel 24, David va pécher par orgueil. Il va se laisser emmener à faire le dénombrement du peuple. Et ça, c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire parce que ça pouvait gonfler son orgueil de dire « Moi, j'ai tant de soldats dans mon armée, c'est moi le plus fort ». Non, il fallait qu'il fasse confiance à l'Éternel, donc il pêche. Et le prophète Gad va venir, il s'en rend compte, il demande pardon, et le prophète Gad va lui proposer de la part de Dieu trois possibilités pour effacer cette faute. Et David va choisir. Donc il avait vraiment ces interactions par les prophètes ou en direct avec le Seigneur, et je vous invite vraiment à vous inspirer de la vie de David pour vivre la même chose. C'est ça ce qu'on devrait vivre tout le temps. Cultivons notre vie intime avec le Seigneur. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut vous parler ? Oui. Il le faut, hein, si vous en doutez. Ne croyez pas à ce mensonge de l'ennemi que c'est que pour les autres. C'est aussi pour vous. Dans la parole, dans les frères et sœurs, parole de connaissance, tout ce qu'on peut vivre au culte, dans la paix intérieure, vous connaissez, hein. Bon, ça fera un autre... Je reviendrai, on en reparlera. Je reviens à notre texte. Donc, on avait laissé David en train d'implorer Dieu, de ne pas le laisser tomber. Et puis, on a vu qu'il se ressaisit en se disant « Mais même si mes parents m'abandonnent, le Seigneur ne m'abandonnera pas. » Il reprend constance et il repart. C'est son fondement. Il connaît Dieu, il a déjà vécu tant de luttes. Mais il continue à implorer Dieu pour autre chose. Et ça aussi, ça nous concerne aujourd'hui. S'il implore Dieu, c'est parce qu'il se sait entouré d'ennemis, des ennemis qu'il guette, qu'ils ne veulent pas le rater. Et lui, il ne veut pas être celui qui permettra à ses ennemis de se moquer de son Dieu. Ça m'a fait penser à David, enfin, contre Goliath. Si vous reprenez l'histoire de David, c'est un jeune homme. Il se bat, il vient parce qu'il y a cet énorme soldat philistin gigantesque qui terrorise l'armée d'Israël. Et lui, David, il est tout petit, il est adolescent quand il vient. Et ce qu'il met en colère, il dit « Mais ce gars-là, là, ce gros machin qui vous fait peur, il se moque du Dieu d'Israël ? Mais c'est pas possible !» Dieu dit ça, le Dieu est plus. Et c'est uniquement parce qu'il veut défendre son Dieu et qu'il dit mais personne ne peut parler comme ça de mon Dieu, qu'il va prendre, tout le monde connaît, son petit lance-pierre, ses trois cailloux, et paf, qu'il va dégommer le gros vilain Goliath. Les histoires préférées des garçons quand on lit la Bible et qui sont petits. Ouais, maman, lis encore l'histoire de David et Goliath. Et c'est ce qu'il nous dit là, versets 11 et 12. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'attaquent à moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Sa vie était observée, mais nous aussi, aujourd'hui, en 2026, on est observés. Vos voisins, vos collègues, votre famille qui ne connaît pas le Seigneur vous observent. Donc attention et demandons la sagesse au Seigneur pour ne pas être une occasion de dire du mal de Dieu ou de l'Église. Donc, ça m'a fait réfléchir. Je me dis, parfois, on aimerait que les gens, faudrait qu'un tel vienne au culte, etc. Mais on va leur dire, viens au culte, puis on va arriver, on va dire, attends, non, on va pas se mettre là parce que ce frère ou cette sœur, j'aime pas comme il chante, ou j'aime pas ceci ou ce. Ça ne va pas du tout. Attention à la manière dont on parle de l'Église, des frères et sœurs, de nos pasteurs. Voilà, on a une image à préserver. On veut donner envie, et pas plutôt envie aux gens de partir. Attention à notre foi. Le Seigneur, oui, non, tu crois vraiment que Dieu peut intervenir dans ce domaine ? Mais oui, lis le psaume 27. Si nous manquons de sagesse, n'hésitons pas à la demander, comme nous le dit l'apôtre Jacques. Enfin. Et puis on arrive tranquillement à la fin. Et là, David est tellement... Tiens, je vais vous poser la question, verset 13. Il nous dit « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. » Et il y a trois petits points. Ce n'est pas moi qui les ai mis, ils sont dans nos Bibles. Comment est-ce qu'on pourrait terminer cette phrase ?« Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel au pays des vivants. » Le pays des vivants, c'est nous aujourd'hui, hein, c'est notre vie. Ben, c'est quoi, je laisserai tout tomber ? J'enverrai tout balader ? Mais il est tellement assuré de savoir que Dieu est bon qu'il termine même pas sa phrase, ça sert à rien. Ah, il est à fond. Et là, il termine comment ? Il le sait, voilà, il le sait. Et là, il termine, vraiment, il se parle, et c'est un encouragement pour nous ce matin, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Il y a d'autres versions qui traduisent par « Attends-toi à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage ». Et c'est exactement ça, la foi. Prier, se rappeler de ce qui est notre Dieu, ses promesses pour nous et nous attendre à lui. Notre espoir est en Dieu, pas dans les hommes. Bien souvent, on pense que la seule manière dont Dieu peut intervenir quand on traverse un moment difficile, c'est de régler le problème, que ça s'arrête. Mais souvent, on oublie que Dieu peut agir d'une autre manière, c'est en nous donnant la force de traverser le tunnel jusqu'à ce qu'on en sorte. Et c'est ce que ce psaume nous rappelle là. Je sais que Dieu est bon, je sais que je ne suis pas tout seul, et peut-être que mes circonstances ne vont pas se régler par un coup de baguette magique, mais je vais traverser ce temps compliqué. Et je ne suis pas seule. Vous avez déjà entendu cette image, ou enfin cette histoire d'une personne qui voit une image avec le Seigneur, il y a deux pas dans le sable, enfin deux fois deux pas dans le sable, et puis à un moment donné, il n'y a plus que deux empreintes. Et là, la personne dit, tu vois Seigneur, je vivais un temps compliqué, tu étais là, et puis après j'étais tout seul. Puis le Seigneur lui dit non, c'était moi qui te portais. Alors ce matin, si vous avez peur, si vous avez des doutes, des combats, des oppositions, ce psaume, j'espère qu'il est pour vous. Placez votre confiance dans le Seigneur. Et j'ai envie de dire, je vais arrêter de dire placer, je vais me mettre avec vous, parce que ça me parle autant qu'à vous. Allons dans nos chambres, fermons la porte et prions notre Seigneur. Ouvrons-lui notre cœur, mais vraiment, ouvrons-lui notre cœur. Disons-lui nos peurs, nos craintes, nos colères, notre tristesse, et puis on va déclarer notre confiance en lui. On va se rappeler tout ce qu'il a fait pour nous. On va déclarer la parole, et puis on va attendre. Et on va attendre dans le silence. Parce qu'on parle beaucoup, moi j'ai beaucoup parlé là, on parle beaucoup, mais des fois il faut savoir se taire pour que Dieu puisse enfin avoir l'occasion de nous parler. Il y a un verset qui va venir, il y a un chant qui va venir, un coup de fil, le petit verset du jour sur nos téléphones, et c'est exactement ce dont on a besoin à ce moment-là. Je vous promets que si vous faites plusieurs fois des temps de silence dans l'intimité de votre chambre, vous allez avoir ce dont vous avez besoin. Et que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. On prie ? Seigneur, merci. Merci pour ta parole, parce que ta parole, elle est vivante. Et tu dis qu'elle ne retourne pas à toi sans effet. Alors je prie que ce matin, elle ne retourne pas à toi sans avoir béni les cœurs de ceux qui sont là. Qu'elle puisse nous faire du bien, nous encourager, nous fortifier si on passe par des moments compliqués, se dire « j'en sortirai et je ne suis pas tout seul, tu me portes ». Et Seigneur, quand j'ai vraiment envie de vider mon sac, je peux le faire devant toi. Je prie aussi, Seigneur, que l'exemple du roi David soit un encouragement pour nous à cultiver notre intimité avec toi, à venir te demander conseil, ta direction, parce que tu réponds. Tu réponds à nous d'apprendre comment tu nous parles, à nous de nous taire pour t'écouter. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions parce que tu es notre Dieu, que tu es bon, que tu ne nous lâches pas et que même si nous traversons des moments difficiles, tu es vainqueur. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen.